Hello, j'espère que t'as le mojo. Alors aujourd'hui, on va parler du mythe de la passion, de qu'est-ce que ça sous-entend comme effort pour devenir un performeur sur ton marché, dans ton business, dans ton domaine, pouvoir jouir d'une liberté incommensurable et d'une de richesse démesurée. Voilà un petit peu les petites promesses qu'on trouve aujourd'hui un petit peu partout sur le web. Et j'aimerais on va parler un petit peu de mindset aujourd'hui, d'accord? Mais un truc bien, bien spécifique, je vais pas te refaire toute la tartine habituelle. On va se concentrer sur la partie passion. Donc, qu'est-ce que ça sous-entend? Dans quel état d'esprit tu dois être? Je vais t'en parler parce que, tu vois, moi, je travaille quotidiennement avec des dizaines de professionnels qui rencontrent des difficultés comme celle-ci. Et c'est vraiment, comme disent les Américains, un eye-opener quand tu comprends ça. Et c'est un petit peu aussi la descente aux enfers de comprendre ça au début, en tout cas. Enfin, c'est une grosse claque dans la gueule, comme on dit dans le jargon scientifique de Damon Pyle. C'est vraiment une claque dans la gueule parce que tu vas te rendre compte que le petit conte de fées qu'on te raconte, et peut-être que tu te racontes à toi-même, en tout cas que moi je me suis raconté à moi-même pendant des années, eh ben, il m'a empêché de faire ce que j'avais envie de faire. Il m'a empêché de devenir un professionnel, il m'a empêché de développer ma liberté, et il m'a empêché de gagner de l'argent que je voulais gagner. Et plus je me défais de ça, mieux ça marche pour moi. Alors, c'est pas facile. C'est un truc que tu vas entendre à peu près nulle part pour une raison très simple. Celui qui te dit ça, en principe, t'as pas trop envie de le suivre ensuite parce que il te vend pas ce que t'as envie qu'il te vende. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que en tant que formateur, tu veux gagner ta vie. Tu vois, moi, je veux gagner ma vie en expliquant aux entrepreneurs comment créer leur entreprise et pouvoir se barrer et faire ce qu'ils veulent. Maintenant, si un formateur comme moi, on dit ce genre de truc, les formateurs pensent qu'ils vont plutôt repousser leur audience, donc ils vont mettre un petit peu sous le tapis les choses dérangeantes et toujours te parler du côté positif du tableau, c'est-à-dire, ouais, motivé, on est de bonne humeur, voilà, toutes les belles choses et tout, mais tout ce qui est pas terrible, on n'en parle pas. Donc, on va parler d'un truc pas terrible aujourd'hui. Quoi que tu verras, c'est pas si horrible que ça, parce que, voilà, au final. C'est juste, les choses, elles sont comme ça, ok? Donc, c'est un truc que tu dois accepter. Il y a eu des recherches scientifiques, là, derrière. Il y a notamment un monsieur Anders Ericsson, qui s'est intéressé à la performance chez tous les... Donc, notamment, bah, tu vois, la performance aux échecs, performance en ballet, en tennis, il y a eu au violon, qui est l'instrument le plus difficile, mais aussi chez les scientifiques, c'est-à-dire les performeurs qui sont dans les milieux professionnels. Et il est revenu systématiquement à la même conclusion, à 100%, parce que tous ces performeurs qui sont arrivés à des niveaux extraordinaires, donc qui sont devenus des outliers, ont tous le même discours, sans exception, tous sans exception. Ok, donc je vais teaser encore un petit peu là-dessus, mais on va parler de ça, on va parler donc du coup, quand ils s'entraînent, quand ils sont dans leur passion, finalement, comment ils se sentent, qu'est-ce que ça sous-entend, voilà, parce que en coaching, j'ai plusieurs fois cette réflexion qui revient, parce qu'il y a vraiment une incompréhension à ce niveau-là. Une incompréhension au niveau de la passion. Qu'est-ce que c'est la passion? Je donne une méthodologie en marketing qui est une méthodologie qui permet de rapidement tester une idée. C'est un truc, je vais pas te le cacher, c'est la plupart d'entre nous, en tout cas moi, je trouve ça extrêmement désagréable. Et si faire du business, ça se ramenait simplement à ça, il y a longtemps que j'aurais trouvé un job chez Super U ou un équivalent franc-suisse chez moi, donc la Coop ou la Migros, pour aller bosser comme caissier plutôt que de vouloir faire cette merde. Seulement, c'est une méthodologie qui est extrêmement rapide, qui te permet de valider si oui ou non ton idée elle est commercialisable, elle est viable commercialement, et que tu peux potentiellement en tirer des revenu substantiel. Seulement, voilà, ça demande d'aller à la main, aller chercher un peu les gens, et c'est assez pénible, c'est une phase qui demande énormément de travail. Et quand je donne à faire ça à certaines personnes, alors certaines vont comprendre ça et vont le faire, et vont avoir des résultats, vont signer leur premier client, vont à très très bon prix, et vont pouvoir valider leur idée, et ensuite vont pouvoir construire un business là-dessus, selon leur désir. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a une autre partie des gens. Je veux accuser personne, moi-même c'est un truc que j'ai vécu pendant des années, et vraiment faut se défaire de ça. Notamment c'est plutôt les femmes que les hommes, hein. Encore une fois c'est juste ce que je vois chez moi, est-ce qu'ailleurs c'est différent, je sais pas, en tout cas chez moi c'est comme ça. J'ai quasiment perdu tous mes clients féminins à cause de ça. Et voilà, c'est un truc, moi j'ai une méthode qui fonctionne comme ça, et bref. Donc récemment, voilà, j'ai plus que des hommes, j'ai une dizaine d'hommes en coaching, mais je pense même arrêter de prendre des femmes pour cette raison, honnêtement. J'ai rien contre vous, mesdames, c'est simplement que, bah, pour moi, le coaching avec les femmes ne fonctionne pas, voilà, tout simplement. Le truc, c'est que, qu'est-ce qui se passe? J'accuse vraiment personne, parce que je vais me faire incendier par les féministes, c'est pour tout et pour rien aujourd'hui. C'est juste que je vois, ok. Peut-être c'est juste ma méthode qui fonctionne pas pour vous, finalement. Je vous le dis, si vous êtes une femme et que vous pensez prendre un coaching chez moi, allez peut-être ailleurs, parce que moi je pense que je dirais non, parce que j'ai jamais vu fonctionner vraiment comme je le voulais un coaching avec une nana, parce que ma méthode, bref, on arrête là. J'espère que tu m'as compris, et si tu me détestes, ben, j'en ai rien à foutre. Donc, ce qui se passe, c'est que je donne cette méthode à faire, et il y a un truc assez récurrent qui arrive, c'est que la personne revient vers moi. Bon, il y a des gars aussi, hein, ça arrive aussi. Qui me dit, c'est une méthode qui me convient pas du tout, ça marche pas pour moi, blablabla, parce que, voilà. Ça arrive parfois que les méthodes ne vous conviennent pas. Mais très souvent, dans la plupart des cas, le problème c'est pas que la méthode convient pas, c'est que ce que je demande de faire ici, c'est de sortir de la zone de confort et de faire des choses. Tu vois, j'ai souvent la remarque du style « Oui, mais moi j'ai pas l'habitude de faire ça, c'est pas comme ça que je fais d'habitude, etc. » Je dis « Bah oui, bah, c'est pour ça que t'es avec moi, tu vois. » C'est pour te faire faire des choses dont t'as pas l'habitude. Parce que si tu continues à faire les mêmes trucs, bah, t'auras les mêmes résultats. Et oui, mais c'est si, mais c'est ça, c'est pas aligné. Voilà, ça c'est le truc qui revient. C'est pas aligné avec moi-même. Et hop, 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 hop. Confondre alignement et confort. Voilà, une notion qu'il faut vraiment séparer. C'est pas parce que tu fais un truc que t'aimes pas faire que t'es désaligné avec ça. C'est-à-dire, ça c'est très important. C'est vraiment le truc au centre de ce podcast, c'est... Si tu fais un truc, tu kiffes pas, la plupart des gens ils vont se dire « Ah ouais non, j'aime pas faire ça, donc je suis pas passionné, donc je suis pas aligné. » Grosse erreur. L'alignement peut être très inconfortable parfois. Je vais donner un exemple tout simple. Moi, une de mes valeurs centrales, c'est l'honnêteté. D'où la petite prise de risque que je fais quand j'interviens dans les podcasts et que j'explique des trucs comme ça. L'honnêteté. C'est pas un gros risque, hein, je te dis, parce que ça fonctionne quand même pour moi, donc t'inquiète pas. Mais dire la vérité. Si dire la vérité et tout le monde est déjà d'accord avec ce que tu vas dire, c'est facile. Mais si tu risques de te mettre à dos les trois quarts de la planète pour dire un truc qui te semble être la vérité, qui semble être importante et qui doit être dite, qui risque d'avoir des grosses conséquences sur toi, mais tu sais que c'est la chose juste à faire, ça va être putain d'inconfortable. Ça veut dire que pour être aligné, tu dois être dans l'inconfort. Et en fait, souvent ce qui se passe, c'est qu'on renie nos valeurs au détriment du confort. Et c'est souvent ce qui se passe aussi dans les coachings, c'est « Ah non, ça me convient pas », parce qu'en réalité, tu sors ta zone de confort. Voilà. Forcément, quand tu te mets à pratiquer une chose que t'as pas l'habitude de faire d'une manière que t'as pas l'habitude de faire avec une méthode que t'as pas l'habitude de suivre, forcément, c'est plus difficile, c'est plus inconfortable, il y a des peurs qui ressurgissent, parce qu'en fait, je te sors de ton sentier et je te mets dans un endroit où tu dois aller. Il y a 1000 endroits, il y a 1000 façons, mais de toute façon, tous les endroits qui fonctionneront seront dans cet inconfort-là. Parce que tant que tu restes dans ton confort, tu restes dans tes résultats. C'est obligatoire. Ça, c'est une règle de fond. Tu restes dans ton confort, tu restes dans tes résultats. Ça veut dire que si aujourd'hui tu ne fais rien d'inconfortable dans ton quotidien, tu es dans tes patterns habituels, donc tu n'obtiens pas de nouveaux résultats. Donc quand tu prends un coach, si le coach te laisse dans ton confort, il te laisse dans tes résultats. Un bon coach, il va te dire... Voilà. Et tu vas résister peut-être premièrement au début, dire, ouais, non, mais ça, j'ai pas l'habitude. Bah, justement, c'est ça que tu dois faire. C'est précisément pour ça que tu dois le faire. Oui, c'est chiant. Oui, c'est dur. Oui, c'est comme ça. On verra après pour une stratégie qui te convient mieux. Mais pour l'instant, on fait ça. Point. Fin de l'histoire. Donc, si t'es pas d'accord avec ça, il y a un problème. D'accord. Alors, il y a plusieurs façons de valider le truc, mais souvent, lancer un business, ça se rejoint. Basiquement, les manières de faire pour lancer un business, si on veut rapidement avoir des résultats et s'assurer de pas perdre notre temps, il y en a pas 46 millions, d'accord? À moins d'avoir beaucoup de cash et de pouvoir risquer de perdre des dizaines de milliers d'euros à tester une idée, l'autre étape, l'autre façon de faire, c'est d'aller à la main. Et même quand t'as de l'argent, je conseille d'aller à la main, d'accord? Surtout si c'est ton premier business, parce que l'argent, t'es quasiment certain de le perdre dans tous les cas de figure si tu as pas encore une idée validée. Bref. Là où j'aimerais vraiment t'amener à réfléchir, c'est par rapport à la passion. La passion, on confond la passion et la gratification. On confond la passion et le confort. Et là où ça va encore plus loin, c'est que quand tu confonds ces deux-là, tu vas vraiment t'empêcher non seulement d'avoir des résultats, mais surtout de développer tes compétences à un niveau suffisant pour devenir, faire partie du top du panier et générer des résultats. Parce que oui, si tu veux gagner plus que la moyenne, tu dois être au-delà de la moyenne. D'accord? Si le premier dans un marché gagne 50 000 euros, le second doit peut-être en gagner 15. Il y a vraiment un gros gap entre le premier et le deuxième. Donc, si tu veux gagner potentiellement ta vie, genre si tu dis, oh, mon but c'est de gagner 50 à 100 000 balles par mois, bah, tu vas être dans le top 5, très probablement, de ta thématique. D'accord? Ça veut dire que tu dois être un performer, être un high performer, tu dois être quelqu'un qui a du gros résultat, c'est-à-dire que qui a de la grosse compétence, donc il a beaucoup entraîné ses compétences. Et là, il y a vraiment ce gap-là, c'est que les gens ne savent pas entraîner leurs compétences. Parce qu'on croit à tort que simplement en faisant les choses passionnément, et moi-même j'ai cru ça pendant longtemps, que simplement dire, voilà, si je suis passionné, je fais mon truc tous les jours, je me pointe, je vais devenir meilleur. Et au début, quand on démarre, on le voit, tu sais, il y a les premiers résultats qui arrivent, très rapidement, on capte des trucs et on arrive à un certain niveau de pratique avec des premiers résultats qui sont sympathiques et on croit qu'on a compris le truc. D'accord? Il y a un biais cognitif par rapport à ça, qui s'appelle le biais de Dunning-Kruger. Ça représente une sorte de couple. Tu peux taper sur Google, hein, si tu veux le truc en parallèle. C'est une sorte de couple. Il y a une première pique et tu te trouves en haut de cette pique. C'est-à-dire qu'en fait, t'es dans une arrogance de croire que tu sais ton domaine, mais c'est simplement que t'as à peine effleuré le truc et que tu comprends pas encore toute la subtilité du domaine. On est pour tout le monde, c'est pareil, c'est un biais, on l'a tous, c'est comme ça. Donc souvent, on est encore incompétent, mais on pense qu'on est compétent. Donc là, voilà, il y a beaucoup de formateurs qui sont sur ce pic-là, d'accord. Ensuite, ça va redescendre parce que tu vas prendre conscience que c'est peut-être pas aussi simple que tu le pensais, et du coup, voilà, il y a le trou de la cuve, et après, on va remonter gentiment en devenant un expert progressivement. Mais pour dépasser... Parce que tu vois, il y a un moment de désespoir quand tu descends, tu te rends compte qu'en fait, tu captes rien, il n'y a rien qui fonctionne. On a tendance à abandonner à ce moment-là ou à arrêter de pratiquer. Et le truc, c'est que quand tu es en mode passion, alignement au confort et pas vraiment alignement aux valeurs, tu vas faire quoi? Tu vas dire, il y a un moment donné, tu progresses plus. Dire, ok, t'as déjà atteint ma limite ou il y a ci ou ça. Tu continues à pratiquer, à faire ce que t'as toujours fait, mais peut-être une année, deux ans, trois ans, cinq ans, peut-être dix ans. Et tu as toujours les mêmes résultats où t'arrives pas à changer de palier. Et t'es là, oui, il faut faire un truc. Moi, ce que je veux faire, mon business, c'est pour ma passion. C'est parce que, voilà, moi, j'ai quitté mon job. C'est pas pour refaire un truc que je déteste faire, etc. Donc, je vais faire que des trucs que je kiffe. Je suis assez d'accord sur le fond de cette idée-là, de dire, je vais faire que des trucs que je kiffe. C'est-à-dire aligné. Mais ça veut pas dire que tous les jours, tu vas kiffer le faire. Ça veut pas dire que toutes les étapes vont être agréables. Tu vois, on passe pas d'un job qu'on déteste à un projet qu'on kiffe et on met que ce qu'on veut dedans. Non, il y a une phase de transition, il y a une phase où tu vas devoir faire des choses qui sont putain de désagréables, peut-être même encore plus désagréables que ton ancien job. Ça, c'est être professionnel. Il y a pas d'alternative à ça. Je te le dis, tu peux chercher d'autres formateurs qui vont te cacher cette vérité-là et continuer à tourner en rond, ou bien tu peux te dire, bah, maintenant, il faut que je me mette une claque et que j'apprenne ça. Et il va falloir faire des trucs qui sont durs, qui sont inconfortables, qui sont contre nature peut-être pour toi, parce que tu dois te transformer, tu dois devenir la personne capable d'obtenir les résultats. D'accord? On n'obtient pas des résultats qu'une méthode. On peut se transformer qu'une méthode, et par la transformation, on obtiendra les résultats qu'on veut. Faut vraiment comprendre cette étape intermédiaire. D'accord? J'aurai l'occasion de reparler de ça dans d'autres podcasts, formations, coaching, mais voilà. Faut vraiment comprendre, c'est d'abord devenir, ensuite la compétence, ensuite faire et on obtient. C'est pas juste je trouve la méthode, j'applique la méthode, j'obtiens les résultats. Si t'es dans cette optique-là, t'es coincé dans la merde. Ça marche pas. Même peu importe ce que vont dire les formateurs, ça ne marche pas. C'est pas faire pour obtenir, c'est faire pour devenir pour obtenir. Donc ne vise pas les méthodes avant tout. Si tu, par exemple, regarde, je te donne un exemple. Tu veux vendre plus? Ne cherche pas des scripts de vente. Cherche des formations qui t'enseigne le copywriting ou la vente directe. Cherche à te former sur la psychologie humaine. Cherche pas une formation qui te promet un résultat qui est d'ordre financier. Cherche une formation qui te promet un résultat qui est d'ordre de la compétence. Genre devenir copywriter pro. Devenir un vendeur pro. Et tu te formes à la vente et tu vas faire de la répétition. Ça va être une formation qui est beaucoup moins attirante, beaucoup moins fun, mais qui va te donner des grands fondamentaux sur la vente. Et ensuite, quand tu vas aller chercher un script de vente, est-ce que celui qui maîtrise la vente, qui a créé ce script, te donnera ce script? Eh ben, tu comprendras pourquoi il l'a fait comme ça, et tu comprendras comment toi l'utiliser vraiment. Ça, je te le garantis, parce que les clients avec qui je bosse, c'est toujours comme ça. Ils viennent, ils ont les scripts qu'ils ont achetés à d'autres formateurs et qui reviennent chez moi. Le script fonctionne pas. J'analyse leur page de vente. Je me rends compte que, en fait, ils appliquent pas du tout correctement les principes de base de la persuasion. Donc, je renseigne les fondamentaux et ensuite, le script qu'ils ont prend tout son sens. Okay. Donc, c'est ça que tu veux. C'est développer une compétence. Tu te focalises sur la compétence avant de te focaliser sur ton business. Si tu n'as pas les résultats en business, c'est pas parce que tu n'as pas la bonne stratégie, parce que je te garantis qu'on utilise à peu près tous les mêmes stratégies sur le web, peu importe ce qu'on en dit. C'est simplement que ceux qui ont les résultats, ils ont les fondamentaux, ils ont compris leurs compétences à un niveau profond. Et ça, comment tu fais? Bah, tu pratiques. Ça se trouve pas dans une formation, ça se trouve dans la pratique. Tu peux avoir une formation qui t'enseigne, qui t'aide à t'entraîner pour développer ta compétence, des choses que je vais d'ailleurs créer, que je suis en train de réfléchir. Mais bref. Donc, passion. Le truc que je veux vraiment te dire, c'est que passion, c'est vraiment le truc qui vient du, tu vois, ça vient du latin. Là, j'ai dû couper le podcast pour aller vérifier le truc, mais ouais, c'est juste, ça vient du latin du verbe pati, P-A-T-I, qui veut dire souffrir. Ok. Et j'ai vu cette définition il y a un moment et je le comprends vraiment aujourd'hui. C'est parce que tu progresses dans la souffrance. Pas dans le confort. Ça, je sais que tu le sais, mais quand tu, si tu dis, ouais, voilà, moi, j'ai envie de me faire mon business en mode passion et tout, et du coup, tu te mets à faire un truc et dès que le truc devient un petit peu difficile, tu arrêtes et tu fais autre chose, tu vas nulle part, en fait. Et c'est ta capacité à tolérer cette souffrance, à faire les choses malgré que ça soit inconfortable, de continuer à les faire. C'est ça qui va faire la différence. Parce que quand tu pratiques juste par plaisir, tu fais un truc. Tu vois, moi, j'ai fait de la musique par plaisir, je pratiquais. Tu arrives à un plateau, à un moment donné, où tu n'avances plus. C'est ça, je te disais avant. Tu as un plateau, à un moment donné, tu arrives, tu dis, bon, peut-être c'est ma limite, peut-être que c'est qui je suis, je peux pas devenir meilleur, ou il y a, voilà, ou peut-être tu te rends pas compte, voilà, de vraiment à quelle limite tu es. Parce que jusqu'à maintenant, tu as pratiqué de manière naïve. C'est-à-dire, tu as pratiqué à l'enthousiasme. C'est un très bon départ. Ça veut dire que si tu n'as jamais bossé sur un truc, tu commences de toute façon par là. C'est-à-dire, tu vas juste t'amuser avec la compétence et tu vas kiffer. Ça peut être du copywriting, ça peut être de la musique, ça peut être du marketing, ça peut être, je sais pas, peu importe, ça peut être de la guitare. Tu vas d'abord kiffer le truc. Puis, il va arriver un moment où tu vas atteindre un plateau et ça va être frustrant. Et la plupart des gens s'arrêtent ici. Je regarde même sur Internet, sur les business en ligne, la plupart des formateurs, ils sont arrêtés à ce niveau de pratique-là. Ils vont pas au-delà parce qu'ils veulent pas sacrifier, entre guillemets, leur, et je te parle même des gens qui sont au top du top, hein. Ils veulent pas sacrifier leur plaisir de bosser. Et c'est précisément ça qui les maintient dans une compétence extrêmement limitée. Donc là, t'as une vraie chance, si tu veux dépasser, moi je te parle du top de la crème, il y en a très peu qui ont fait ça. Si tu veux vraiment dépasser ces gens en un temps record, je te parle de quelques mois, tu peux tirer avantage de leur manière de pratiquer naïvement en pratiquant de manière, enfin, pratiquer à dessein. C'est-à-dire que tu vas vraiment avoir un objectif de progression en termes de compétences et tu vas dire, ok, bon, je suis passionné par ça, mais j'accepte de sortir de ma zone de confort. C'est-à-dire que je vais m'entraîner là-dessus et je vais pas prendre les exercices ou les trucs qui me font kiffer, je vais prendre les trucs qui vont être efficaces. Je vais me challenger et je vais souffrir. Je vais le faire, ça va ressembler à du travail plus qu'à du plaisir. Et ça, les études scientifiques, je te ramène à Anders Ericsson, qui a discuté avec des milliers de performeurs, qui ont tous dit la même chose, sans exception, que pour la pratique qu'ils faisaient pour arriver à leur niveau, c'était quelque chose qu'ils n'aimaient pas faire. Tu vois, il y a la performance et il y a l'entraînement. La performance, c'est par exemple, tu vois, un musicien, il est sur scène et il performe. Il kiffe. Mais en dehors, il est avec son groupe, il s'entraîne, ils vont peut-être rester sur trois accords toute la soirée, ils vont s'entraîner, s'entraîner. Ils auront envie de jouer des morceaux plutôt, se mettre à kiffer. Non, on doit entraîner ces trois accords, donc on entraîne ces trois, putain, d'accord, c'est casse-couille, on s'en fout, on veut devenir les meilleurs, on doit bosser sur cette faiblesse-là. Voilà. Et ceux qui font ça, ils sont très peu nombreux, mais ceux qui ont cette, et ceux, c'est vraiment juste ça. C'est une question d'avoir une stratégie, de savoir exactement comment reconnaître tes faiblesses et te focaliser juste là-dessus et travailler là-dessus. Ceux qui font ça ou celles qui font ça, c'est ceux-là qui systématiquement arrivent en pole position. Et tu peux être pleinement aligné avec tes valeurs tout en étant dans la souffrance de l'entraînement. Et c'est comme ça, c'est en alliant ces deux choses que vraiment tu dépasses la moyenne des gens. Le vrai combat, quand t'as sûrement déjà entendu ça, le vrai combat il est avec toi-même. Parce que c'est pas tant les autres, c'est vraiment cette capacité à te discipliner. Et la discipline en soi en tant que telle, ça existe pas vraiment, c'est vraiment de l'habitude, mais apprendre l'habitude de de se dépasser, tu sais, d'être, quand t'as un inconfort, tu pousses. T'as pas besoin d'être dans un immense inconfort, mais un léger inconfort, mais quotidiennement. Et tu deviens meilleur. Tu te mets des challenges toujours plus élevés. Tu avances. Cet Anders Ericsson, il a découvert ce principe-là à travers un exercice de rétention de nombres. C'est-à-dire, l'exercice, c'était, toutes les secondes, on te donne un nombre. Ou c'était un chiffre. Ouais, je sais plus. Bref. 1, 4, 8, 6, 4. Puis toutes les secondes. 1, 4, 7, 12. Enfin, c'est plus qu'une seconde. Bref, tu m'as compris. Et la personne en face, elle doit peut-être retenir le maximum de ces nombres. Et la mémoire à court terme, on peut retenir entre moyenne entre 5 et 7 objets. Ça veut dire que bah il a premièrement pratiqué et il voyait que la personne arriverait rarement à passer les 8. Et puis un jour, il s'est mis des objectifs avec lui, il a commencé à le challenger en disant bah voilà, maintenant t'as fait 8, tu peux faire 9. Alors on va essayer de faire 9. Mais on va baisser peut-être la vitesse, on peut-être toutes les 2 secondes, je vais te donner des chiffres et puis tu vas retenir ces chiffres mais tu vas aller jusqu'à 9. Et si t'arrives à 9, on te met à 10. Si t'arrives à 10, on te met à 11. Si t'arrives nouveau à 10, on te redescend d'un cran, d'accord? Si tu dépasses le truc, on t'augmente, si tu dépasses pas, on redescend d'un cran. Et il y a vraiment un challenge qui se crée et du coup, tu sais, c'est de la gamification quelque part. On rend intéressant le truc, et la personne elle s'est mise à s'entraîner et elle a réussi à arriver à retenir à peu près 80 chiffres de cette manière-là. 80 nombres ou chiffres, je sais plus. Aujourd'hui, leur corps, il est dans les 500 et quelques, je crois. Ça défie carrément la mémoire à court terme. Et là, ce qui est super intéressant, c'est qu'il s'est rendu compte que le cerveau est modifié, comme les muscles sont modifiés quand on pousse à la fonte. Le cerveau est modifié, il s'adapte pour pallier ses faiblesses et trouver un moyen d'arriver à la performance. Et à dépasser cette performance. Donc ton palier, peut-être si t'as fait une année, 2 ans que tu pratiques aujourd'hui sur le business et que t'es à ta limite, t'arrives pas à dépasser tes chiffres, ton problème il est très probablement ici. C'est-à-dire que t'essaies de faire un truc qui te passionne, puis à un moment donné ça marche plus, alors tu vas peut-être faire autre chose. Mais tu cherches toujours à faire quelque chose que tu kiffes, parce qu'en fait tu évites l'inconfort, tout simplement. Voilà la dure vérité. Je l'ai pas inventé. J'aimerais que les choses soient différentes. Hein. J'aimerais être, tu vois, enfin moi quand j'ai commencé le business, honnêtement, j'étais là en mode, ah ouais, j'aimerais bien, pouvoir passer mon temps tranquillement, boire de la piscine, à kiffer, à lire un truc, à apprendre un truc, après l'appliquer sur moi en mode, vas-y, c'est la fête, on applique les trucs et après on l'enseigne, toujours c'est la fête. Non, c'est pas comme ça. Travailler dur, devenir meilleur. Ensuite, enseigner. Pour enseigner, c'est très difficile de créer une formation. Quand je te dis créer une formation, je veux une formation qui fonctionne, c'est très très difficile. La pédagogie, c'est très difficile. Ça te demande un travail constant. Je veux dire, ceux qui font de la formation, qui n'ont jamais fait de coaching, qui n'ont jamais enseigné en direct à quelqu'un, ils peuvent pas faire de la bonne formation. C'est pas possible. Ça n'est pas possible. Parce que tu dois comprendre que quand tu vois, il y a ces principes d'inférence, par exemple. C'est quelque chose qui est extrêmement clair pour toi. Tu sais, je vois souvent des gens qui font de la formation et qui disent après, ouais, les gens, ils comprennent rien, ils appliquent pas et tout, ils ont pas le mindset. Moi, je me bats contre ça, tu sais. C'est un truc, moi, ça me... Alors ouais, bah, il y a des gens qui ont pas le mindset. Mais toi, t'es là pour les inspirer, bordel de merde. Et, y a vraiment des gens, peut-être, qui sont perdus au fin fond du trou et que ça, tu peux faire ce que tu veux. De toute façon, ils sont tellement à l'ouest et quelqu'un, par exemple, qui arrive pas à accepter ce genre de truc, comme je suis en train de dire maintenant et que jamais il acceptera ça, pour moi, il est perdu. Effectivement, ça, ça fera l'unanimité de tous ceux qui ont des résultats, quasiment. Enfin, je pense même tous, honnêtement, sur ce point-là. Voilà. Mais bref. Tu vois, regarde, moi, j'ai un truc que j'aime bien dire, c'est, tu sais, quand je parle avec certains entrepreneurs, je les remets un petit peu à l'ordre d'ailleurs, c'est, quand je dis ça, j'ai, tu vois, formation, ils se plaignent, ouais, de toute façon, ils ont pas le mindset. Ça, c'est le premier truc qui sort. Je dis, mais tu vois ça, si c'était sur ta page de vente, donc le taux de conversion, qui était trop bas, est-ce que tu dirais que tes clients, ils ont pas le mindset pour acheter? Non. T'améliores ta page de vente, parce que si tu le fais pas, tu gagnes pas d'argent. Quand ils ont acheté ta formation, c'est quoi la différence entre vendre et entre le convaincre d'acheter et le convaincre de suivre ton cours? C'est quoi la différence? Rien, c'est de la vente dans les deux cas. Donc, t'as le taux de conversion, mais une fois qu'il a la formation, il y a le taux d'application. C'est la troisième conversion. Tu dois optimiser le taux d'application pour qu'il y ait un maximum de monde qui suive ta formation et obtienne les résultats. D'accord? Et dire, c'est leur mindset, c'est parce qu'ils ont pas le mindset, ça, c'est ce qu'on appelle communément, en psychologie, de la déresponsabilisation. Ça veut dire, c'est pas ma faute, moi j'ai fait mon truc, c'est toi qui fais pas ton truc à toi. Tu es là pour inspirer les gens. Donc tu dois travailler sur le taux d'application qui est même plus important que le taux de conversion. D'ailleurs, il y a aussi un gros gap ici sur le web aujourd'hui. Donc, si tu veux prendre l'avantage sur tes concurrents, travaille davantage sur le taux d'application que sur le taux de conversion. Tu vas créer des produits de bien meilleure valeur que tes concurrents et tu vas mieux marcher qu'eux, tu vas créer plus de confiance, etc. Et ça, j'en suis convaincu. Et on arrive dans une ère où ça va devenir une évidence, ce que je te dis là. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Pour l'instant, tout le monde est focalisé sur la partie vente. Il y a des lois qui sont en train de se mettre en place. Il y a les plateformes sociales comme Facebook qui sont en train de vérifier que les formateurs, ils font pas de la merde. De plus en plus, ça va être écrémé. Ceux qui savent vendre mais qui savent pas produire de la valeur de qualité, ils vont se faire gicler. Et ça va être ceux qui produisent de la valeur qui vont gagner sur ceux qui vendent. D'accord? Il y a un changement de paradigme ici. Voilà. Ça, j'en suis convaincu et ça va se voir dans les 5 prochaines années. J'en suis convaincu. D'accord? Donc, mais si j'en suis pas, si c'est pas le cas, je suis prêt à courir à poil en pleine ville de Bulle, c'est ma ville à moi, et qu'on me filme et je poste ça sur YouTube. Je suis tellement convaincu du truc, voilà. Bref, j'aurais peut-être pas dû dire ça, mais non, je suis convaincu du truc. Donc voilà, ça veut dire que pédagogiquement, tu vois, il y a du travail à faire. Il va falloir apprendre à créer de la formation. Qui sait que ça intéresse? Pour l'instant, pas tant de monde. Qui sait que ça intéresse d'apprendre à apprendre? Pas tant de monde. Pourtant, je vais faire une formation là-dessus. Enfin, il y en a que ça intéresse, hein, je dis pas, les gens qui sont plus avancés, déjà, ça les intéresse et je vais créer cette formation pour eux. Parce que tu comprends que t'as un accélérateur pour passer devant tous ceux qui s'intéressent pas, tu vois. Parce qu'apprendre à apprendre, c'est the compétence numéro une. C'est pas la persuasion. C'est apprendre à apprendre. Si ton boulot, c'est d'apprendre et d'enseigner, la première chose à faire, c'est d'apprendre à apprendre. C'est logique, de base. Donc, si t'apprends à apprendre, tu peux aller 2, 3, 4, peut-être 10 fois plus vite que tes concurrents à apprendre les mêmes sujets. T'as un avantage concurrentiel qui est absolument incroyable. Qui je veux dire, si ton boulot, c'est de l'information, c'est de retransmettre de la compétence, et que t'es capable d'apprendre 3 à 10 fois plus vite que la concurrence, c'est comme s'ils sont à pied sur un circuit de Formule 1, et puis toi, t'es en fusée, quoi. C'est... voilà, et celui qui dit « Non, moi, l'apprentissage, ça m'intéresse pas », et puis il court en tong, « Fais comme tu veux, mon gars, moi j'ai autre chose à foutre, quoi. » Tu vois, donc... Bref, j'aime bien mes métaphores à la con, mais c'est vraiment ça, en fait. Peut-être qu'il faut d'abord fabriquer la fusée pendant que l'autre il fait déjà 15 tours, tu vois. Mais une fois que la fusée elle est faite, et 15 tours, tu les fais en 30 secondes, quoi. Et l'autre il fait son 16e tour, t'en as fait 200. Donc, voilà, ça fait d'exponentialité. Donc, je m'égare un petit peu, certes, mais ce que je veux dire c'est, il y a un moment donné, il faut sortir de ton confort. Faut arrêter de confondre alignement et confort et dire, bon, aujourd'hui, j'ai 2 ans peut-être de marketing dans les pattes, j'ai ces résultats, je vois que ça décolle pas. Ce que Damon là, il me dit, c'est que je dois sortir de ma zone de confort, je dois sortir mes pouces du cul et je dois me mettre en place une stratégie d'apprentissage qui va être beaucoup moins fun que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Est-ce que oui ou non je veux faire ça? Si tu veux pas le faire, c'est ok. Mais il y a fort à parier que tu restes dans les résultats que tu as. Il y a d'autres raisons des fois pour lesquelles on s'améliore pas. Ça peut être le mindset, mais le mindset c'est la même chose, c'est un truc que tu dois challenger. C'est comment on développe son mindset? Les formateurs vont dire on développe son mindset en faisant des affirmations dans le miroir ou machin et tout, de la visualisation. Non. Là, tu peux te conditionner pour agir si tu bloques sur un truc spécifique. Mais le mindset, il se développe quand tu sors de ta zone de confort, encore une fois. C'est-à-dire quand tu vas rencontrer des personnes qui t'intimident et que tu en fais tes amis. Quand tu vas lire des livres dont tu comprends quasiment rien, qui sont d'une qualité incroyable. Je te parle pas de vidéos sur YouTube ou du dernier best-seller à la mode qui est des petites idées sympas. D'ailleurs, au passage, il y a des bons bouquins, tu sais, je veux dire, comme One Thing ou des trucs comme ça. Ce genre de livre-là, c'est intéressant, les idées qu'il y a dedans, mais ils valent pas ton temps de lecture. Trouve un résumé sur Internet, peut-être 2 résumés différents, et tu lis les 2 résumés. En 2 heures, t'étudies le résumé, tu fais ton propre résumé. En 2 heures, l'idée, elle est absorbée à tout ce dont t'as besoin et tu vas pas besoin de lire le livre. Et tu fais ça tous les jours et en fait, c'est comme si tu lisais un best-seller par jour et tu vas beaucoup plus vite. Il y a d'autres, comme des études scientifiques où aller étudier directement le travail des plus grands performeurs et d'essayer de les reproduire. Ça a beaucoup plus de valeur que de lire des bouquins. Et si tu dois lire les bouquins en entier, les seuls vrais bouquins en entier que je te conseille de lire au-delà des études scientifiques ou de tout ce qui se rapporte à des choses qui sont concrètes, qui sont de la source primaire, c'est les autobiographies des plus grands de ce monde, des gens comme Steve Jobs et compagnie. Parce que tu vas vouloir comprendre leur mindset, comprendre leur façon de penser. D'accord? C'est, voilà. Voilà. Donc, ça va te challenger. D'accord? Donc, mindset, c'est 3 choses. C'est rencontrer des gens qui t'intimident, et en faire ton nouvel entourage, Et une fois que tu as ce nouvel entourage, ça va être des gens qui t'intimident encore plus, et tu dois, tu vois, il y a toujours ces gens qu'on a peur de contacter, c'est eux qu'il faut contacter. Ensuite, le contenu que tu consultes, donc aussi te challenger, te mettre en face du contenu qui est beaucoup plus difficile que ce que tu as l'habitude et beaucoup plus qualitatif. Et troisième chose, c'est les actions. C'est ce dont on a discuté tout au long de ce podcast, c'est te sortir de ta zone de confort, te challenger à aller au-delà de... au-delà de ce que tu as l'habitude de faire et de, voilà. Après, faut travailler ta motivation. Parce que la motivation, ça va être le truc le plus difficile que tu vas avoir à faire. Garder la motivation. Donc, ce qu'il te faut, finalement, c'est un système pour garder la motivation. C'est savoir, au fond, pourquoi tu fais ça. Tu sais que c'est indispensable, tu dois faire ça maintenant et que tu vas en être énormément récompensé. Et chaque fois que tu le fais, ça active positivement tes circuits et ça vient contrebalancer les circuits neuronaux, ça vient contrebalancer le négatif, c'est-à-dire la souffrance du moment vient de contrebalancer de loin par un potentiel gain énorme potentiellement éviter une perte énorme aussi, ça peut être encore plus intéressant selon comment. Et du coup, c'est ce qui va te garder focus. D'accord? Voilà. Voilà. Donc ce podcast à réécouter 15 fois si tu l'as pas intégré, parce que ça change cet état d'esprit entre le pro et l'amateur, entre celui qui a les résultats et celui qui les a pas, la différence elle est là. Il n'y a pas besoin d'en faire une formation. Je te garantis qu'il n'y a pas besoin d'en faire une formation. Alignement, confort, c'est pas la même chose. Si tu ne pratiques, alors au début, tu pratiques naïvement, tu vas kiffer le truc, mais à un moment donné, tu arrives à ta limite. Si tu veux devenir un vrai performeur, quelqu'un qui a des vrais gros résultats, quelqu'un qui, parce que les compétences, c'est rare. Je veux dire, les quelques personnes qui ont de la vraie compétence, qui peuvent vendre ça, ils font du cash, ils font beaucoup de cash. C'est des grosses compétences, tu vois, comme si tu es un vrai copywriter. Si tu développes avec cette méthode ce que je te dis là, tu deviens copywriter. J'en ai formé des copywriters, hein, qui aujourd'hui bossent pour des gros, et des gens que tu connais. Et du coup, ces gens-là, ils se sont formés sérieusement. Ils ont fait les choses que j'aurais dit de faire, qui étaient désagréables, mais ils l'ont fait. Et je te garantis que chaque fois que quelqu'un argumente, tous mes clients qui n'argumentent pas sur le travail que je leur donne de faire, ils obtiennent les résultats. Tous ceux qui argumentent, ils galèrent dans leurs résultats. Voilà. C'est comme ça. Et on a tous passé par ces deux phases. Il n'y a pas de jugement. C'est simplement, je suis pas là pour juger, je suis là pour dire, OK, maintenant. Est-ce que c'est douloureux de te dire ça? Est-ce que tu t'es rendu? Parce qu'on est tous, hein, à certains endroits, on n'arrive pas à se challenger, tu sais. Le truc, c'est, alors je vais te parler de ça encore pour terminer là-dessus, mais on doit regarder honnêtement en nous-mêmes et se dire, oui, est-ce que moi je suis comme ça? Oui, peut-être. En tout cas, je le suis à des endroits où je vois pas que je le suis. D'accord? C'est pas juste un oui, non. C'est à des endroits oui, à des endroits non. C'est une nuance toujours. Donc, à quel endroit je suis comme ça? C'est ça la question que tu vas te poser. C'est pas, est-ce que je suis comme ça? Oui, non, oui. Oh non, il m'a dit ça, j'étais trop un con, putain, il m'a jugé. Je vais trop lui dire que c'est un salaud, machin. Non. Enfin, tu peux, si tu veux, mais ça changera rien au problème. Le truc, c'est, à quel endroit tu te challenges pas? À quel endroit tu bloques là-dessus? Comment tu peux améliorer ça? Comment ce podcast douloureux peut changer ta vie? Parce que c'est les infos douloureuses qui changent ta vie. C'est pas les trucs chouettes. Moi, mes podcasts, ils sont très souvent douloureux volontairement parce qu'ils vont mettre le doigt exactement là où ça fait mal. Là où les autres formateurs osent pas aller, mais pourtant, c'est un bon coach, il va là où ça fait mal, directement. Alors après, moi, je fais pas du coaching en soi, je suis dans l'enseignement. Le coach, il va plutôt te poser des questions, t'aider à faire du coaching, faire des petits exercices pour apprendre plus sur toi. Le consultant, il est plutôt là à te mettre le doigt dessus, dire voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vois, mais un peu de coaching là, donc je te pose la question chez toi, à quel endroit tu n'appliques pas ça, à quel endroit tu restes dans ton confort et tu sais que tu devrais en sortir, et qu'est-ce que tu peux faire pour te motiver, sachant que ce que je dis là, tu vois, c'est comme en bodybuilding, si tu pousses et que tu te contentes d'arrêter dès que ça commence à faire mal, dans 10 ans t'auras pas pris un gramme de muscle, peut-être au début 1-2 kilos, puis encore je suis généreux. À un moment donné, il faut dire, ok, quel exercice je pousse pas assez, quel exercice je fais pas correctement, quel exercice j'ai des faiblesses et je dois m'améliorer. Et pour terminer, je voulais te dire justement sur la volonté, il y a un truc assez intéressant sur la volonté que j'ai découvert, c'est que on a tendance à avoir la volonté comme quelque chose de global. C'est-à-dire, lui, il a de la volonté, lui, il a pas de volonté. Il y a rien, scientifiquement, qui prouve qu'il existe un réservoir de volonté générale. Ça n'existe pas. On l'a pas encore trouvé, mais ni en pratique, ni du côté scientifique. Pour certaines choses, on va être très volontaire, et pour d'autres, on va être des flemmards absolus. On est tous comme ça. Moi, j'ai une facilité déconcertante pour me poser et réfléchir et passer des heures à réfléchir et je le fais naturellement. Par contre, dès qu'il s'agit de faire du sport, j'ai une limace, tu vois. J'essaie tous les jours de faire une demi-heure de sport, puis encore, je me pousse pas assez. Je manque de volonté clairement en sport. Voilà, tu vois, il faut être honnête avec soi-même. Et du coup, ma question, c'est comment je me motive avec ça? J'essaie de me réconcilier avec le sport, de faire, tu vois, de pratiquer un peu plus naïvement pour l'instant, juste pour me mettre à kiffer, faire du sport, trouver des raisons de pratiquer, avoir mes premiers résultats, et ensuite, je me mettrai dans cette optique de pratiquer à dessein, et dire, ben, objectif, je me repousse. Mais je veux créer cette habitude, tu vois. Et je veux développer cette volonté dans le sport. Mais la volonté, elle dépend vraiment de chaque zone. Faut arrêter de penser en termes de volonté et en termes de discipline. Ces deux choses, tu les rayes de ton vocabulaire et tu penses tout en termes de motivation. Parce que dès que tu trouves la volonté, c'est dès que tu trouves la motivation. Le truc, c'est que tu dois... La motivation, des fois, elle est là naturellement. Des fois, tu dois la créer. C'est pour ça que, par exemple, tu vois, la morning routine, c'est un rituel de création de motivation. Tu vois, se dire que, par exemple, moi, quand j'ai pas envie de faire du sport, bon, des fois, j'en fais pas, après, je m'en veux, et je montre, je m'intéresse au fait que je m'en veux, et du coup, la fois suivante, je le fais. C'est de la mindfulness, comme on appelle. Ensuite, quand je dois me motiver à faire du sport, au début, j'ai un petit échauffement. L'échauffement, c'est aussi un rituel de motivation, tu vois, parce que quand t'as pas envie, tu te mets juste à bouger les bras, à faire deux, trois petits sauts, tu te conditionnes. Tu te mets en mouvement, tu fais ça pendant 5 minutes, après 5 minutes, c'est bon, là, t'as l'énergie pour continuer, tu vois, c'est ça. Alors tu dis, ouais, je fais juste l'échauffement. Et moi, mon truc, c'est, je fais l'échauffement, une fois que j'ai fait l'échauffement, je peux décider si oui ou non je fais du sport. Mais l'échauffement, il est obligatoire. Si à la fin de l'échauffement, j'ai toujours zéro envie, c'est que j'ai pas d'énergie, donc j'ai le droit de pas faire mon sport. Mais j'ai fait mon échauffement. Comme ça, du coup, j'ai quand même démarré l'habitude, tu vois. Bref, je veux pas trop m'égarer, mais tu dois te mettre en place des stratégies de motivation. Parce que effectivement, les choses qui te font progresser sont difficiles. Les choses qui te font progresser, elles sont pas dans le confort. Et celui qui accepte ça et qui fait ça, t'es millionnaire dans peu de temps, quoi. Enfin, mais c'est pas facile. Je dis, c'est à dire, c'est vite dit. À faire, c'est une autre histoire. Mais celui qui arrive à se, c'est un peu une forme de transcendance. Tu utilises un petit peu un mot connecté aux anges, mais c'est être capable de reprendre le contrôle sur sa marionnette, parce que souvent le problème, c'est que ceux qui veulent monter un business, ils ont pas un problème marketing, ils ont un problème de self-control. Vraiment, 90% des gens ont un problème de self-control. Tu leur dis de faire un truc, tu vois, typiquement, ils arrivent pas à rentrer dans l'inconfort alors qu'ils savent qu'ils doivent le faire, mais c'est pas pour eux, ils sont pas alignés. C'est un problème de self-control, c'est pas un problème de marketing. Et derrière, tu dois apprendre à te contrôler. Et ça, c'est la grande bataille de ta vie, en fait. Parce que les choses, une fois que t'as ce self-control, le faire en soi, c'est pas super difficile. C'est te contrôler, tu vois. C'est ça qui prend du temps. Donc voilà, c'est pour te dire un petit peu tout ça. Hésite pas si t'as des questions. D'accord, tu peux me les poser en dessous, là, de ce podcast. Mais ouais. Voilà, donc il y a une grande acceptation. Alors, après, si tu veux rester amateur dans ton truc, tu kiffes, c'est un hobby, il y a pas de problème, mais rester dans une pratique naïve, je veux dire, tu vois, tu vas faire du tennis, tu kiffes le tennis, t'as juste envie de faire une partie de tennis avec plaisir, ça t'intéresse pas de devenir un très bon tennisman, tu vas pas te mettre des objectifs, tu vas juste pratiquer comme un sport, c'est même pas un sport, c'est juste un loisir. Si tu veux, si t'aimes bien gagner 500 euros ou 1000 euros à gauche à droite sur internet par mois, t'as pas envie de plus, c'est juste tu fais ça comme ça, reste dans une pratique naïve, y a pas de problème avec ça. Mais si maintenant tu vises les 10 000, les 20 000, les 50 000, les 100 000, à ce moment-là, il y a des objectifs. Dès que tu te mets des objectifs, il y a un inconfort. Parce que objectif par nature, et tu fixes quelque chose qui est au-delà de ce que tu as actuellement et qui demande une transformation. C'est le principe de l'objectif, c'est de donner cette direction et cette mesure. Donc, ensuite, ça c'est repousser ses limites jusqu'à l'objectif. Donc celui qui repousse ses limites dans la passion, qui repousse ses limites dans le confort, j'ai jamais vu. Tu m'en trouves un qui repousse ses limites dans le confort. Et je te parle pas de quelqu'un qui démarre, je parle de quelqu'un qui a déjà un début de résultat, qui est arrivé à un palier, qui veut aller plus loin. Ça n'existe pas. Et c'est probablement là que tu es coincé si tu as pas les résultats. Voilà. Là, la dure vérité que je t'avais promis au début de ce podcast, elle est là. T'en fais ce que t'en veux. Si tu comprends ça, franchement, respect, parce que je sais, moi, il m'a fallu des années, on me l'a dit plusieurs fois, il y a des gens qui sont venus vers moi me dire ça, m'expliquer ça. Je voulais pas l'entendre, j'étais là, oui, mais non, mais moi, c'est différent, parce que nanana, ou je savais pas, je t'avoue que j'ai pas trop, un vague souvenir flou de ce que je me racontais à moi-même comme connerie. Parce que je voulais juste pas accepter ça. Tu vois. Donc, C'est comme ça. Moi, j'ai lu il y a 10 ans, c'est Steve Pavlina qui disait ça, que est-ce que quelqu'un qui n'a pas la compétence ne doit pas enseigner parce qu'il risque d'enseigner des mauvaises choses? Oui, c'est vrai. Ne deviens pas formateur si t'as pas une expérience avancée. Il y a 10 ans, j'étais là, non, mais attends, je voulais pas accepter ça, je voulais devenir entrepreneur. Ok. Je suis devenu entrepreneur, non, parce que j'ai essayé de devenir entrepreneur c'était en 2010 sur le business. Et ça a foiré, parce que j'avais pas la compétence. Je suis devenu entrepreneur, j'avais déjà la compétence, parce que je suis devenu entrepreneur, j'ai lancé ma société en 2008 sur la musique, et j'avais la compétence, j'avais plus de 12 ans d'expérience en musique, j'ai pu enseigner la musique. D'accord? Parce que si j'avais passé 12 ans d'expérience, j'ai juste des techniques marketing, j'aurais pas pu devenir entrepreneur, c'est pas possible. Ça, c'est une autre dure vérité. La compétence. Et la compétence vient de la performance. Donc, moi, je te parle de tout ça parce que là, je suis en train, c'est pas encore prêt de mettre à jour, c'est une version 2 d'ailleurs, parce que la version 1 n'était que disponible en coaching, mais une version 2 qui sera aussi disponible en formation sur l'apprentissage. Donc, apprendre à apprendre. Je sais que ça concernera, enfin, il y a que très peu de gens qui se sentiront concernés par ça. Enfin, c'est pas vrai. Si ça va se passer comme ça, les gens vont voir ma formation, vont se dire, ah ouais, ça, c'est un truc qu'il faudra que je fasse parce que c'est vraiment important. Mais d'abord, je dois faire ça. Et ce d'abord, c'est quoi? C'est du marketing. Émotionnellement, ils vont plutôt vouloir acheter du marketing quand bien même ils sauront. Tu vois, l'urgence, c'est le marketing, l'importance, c'est l'apprentissage. Les gens intelligents, ils seront capables de prioriser l'important. Je vais faire cette formation pour cette catégorie-là. Je suis conscient qu'il y aura moins de monde. Je suis conscient que aussi, peut-être avec les années, je suis convaincu que cette pensée, elle va changer. Il y aura plus en plus de monde qui vont s'intéresser à l'apprentissage. J'ai des très bons retours des gens qui ont suivi cette formation et d'autres qui sont intéressés par ça. Il y a de plus en plus de monde qui s'y intéresse, je le vois. Et je me positionne par rapport à ça là-dessus, donc je sais pas encore comment je vais l'appeler, peut-être hyper-seller comme je l'appelais avant, ou alors expert express, enfin, je sais pas, on verra. Mais ça va parler de tout mon système d'apprentissage que j'applique depuis plus de 12 ans. Et 12 ans, attends, je n'ai pas de conneries, 2008, ça fait 12 ans, ouais. Depuis plus de 12 ans que je revois, je remets à jour, j'étudie pour apprendre le plus vite possible. Et bref, voilà, j'aurai l'occasion de t'en reparler si ça t'intéresse. Reste ici avec moi et puis tu pourras pas le rater comme ça. Voilà, donc si tu as des questions, quoi que ce soit d'autre, je lirai les commentaires dans la semaine. C'est une magnifique journée, à bientôt, salut.